Bonjour, c'est José ou Hans Jürgenand. Cette vidéo est la lecture d'un satsang que j'ai donné, qui a été enregistré, qui a été retranscrit, et je lis cette retranscription. Donc je vais faire le cérémonial habituel pour le satsang. Je vais prendre un moment pour me recentrer sur le saint nom en moi, par la méditation. Ensuite, je donnerai un petit coup sur un petit bol tibétain pour dire que je commence la lecture et je ferai les commentaires du satsang au fur et à mesure. Satsang, être ou paraître. C'est vrai que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Quelqu'un à la recherche d'un appartement aura plus de choses à dire que celui qui est déjà installé. Un explorateur a plus de choses à dire qu'un sédentaire. Pour le chercheur, il doit savoir s'il cherche la vérité ou s'il considère qu'il n'y a pas de vérité universelle et qu'il aime simplement chercher. Un chercheur de profession, bon, je vais le mettre entre guillemets parce que, à part au CNRS, comme chercheur, il n'y en a pas qui soit de profession. Un chercheur de profession, entre guillemets, ne se comportera pas comme quelqu'un qui a soif de trouver. Le chercheur de profession collectionnera les découvertes sans s'arrêter sur une en particulier, tandis que celui ou celle qui a soif de vérité ira jusqu'au bout de ses rencontres. Il ne suffit pas de chercher, il faut accepter d'avoir trouvé. Quand c'est le cas, évidemment. Alors, comment savoir si c'est le cas? Eh bien, comme dirait l'autre, écoute ton cœur, hein, ton intuition, puisque tout le monde a l'air de savoir ce que c'est que l'intuition et que ça fonctionne, alors ne vous gênez pas, écoutez votre intuition. Je sais que la majorité de ceux qui se disent chercheurs croient qu'ils ne trouveront jamais. Ils se trouvent bien dans leurs recherches. Elles les justifient, les singularisent. Ils font du tourisme spirituel, en toute honnêteté intellectuelle. Ils peuvent aller butiner une fois sur le zen, le pranayama, l'enracinement, le reiki, comme d'autres font la Grèce, la Tunisie, le Vietnam, etc. Des mystiques, il y en a plein, et tout se mélange hein, en ce moment. La spiritualité, à la religion, à l'ésotérisme, au New Age, au pouvoir, à l'épanouissement personnel, etc. Chacun fait comme il l'entend, c'est la liberté, le libre arbitre. D'ailleurs, en ce moment, c'est plus la mode de la liberté que la mode du devoir. On parle plus souvent de ma liberté, que mes devoirs, hein. Bon, je suis un vieux con et je radote, c'est l'âge qui veut ça. Mais il faut bien l'avouer que les devoirs sont, assumer ses devoirs, c'est moins à la mode que revendiquer sa liberté. Quand nous sommes à la maison, il y a juste à vivre. Il y a juste à être, pas à paraître. il y a une différence entre l'être et le paraître. Quand il est question de lâcher prise, il est question de lâcher l'identité que nous croyons être. Alors j'ai mis un i parce que je vais mettre finalement comme ça. Quand il est question de lâcher prise, il est question de lâcher l'identité que nous croyons être jusqu'à présent. J'ai remis le i. Il avait son utilité finalement. Il est dit en spiritualité que pour trouver le vrai soi, il s'agit de s'oublier. Mais c'est faux. Il ne faut pas s'oublier. C'est le faux soi qu'il s'agit d'oublier, pas le vrai. Il est question d'ouvrir les yeux, de s'apercevoir que le vrai soi est quelqu'un d'autre que celui que nous croyons être. Sans l'acuité de conscience que donne la fréquentation de son centre, l'observance des trois piliers et de l'agya, il est difficile de reconnaître le vrai soi. Alors, les trois piliers, c'est ce qui constitue la pratique de la voix. Ça s'appelle la sadhana. C'est un mot sanskrit qui signifie ce qu'il faut faire. Ces trois piliers sont trois pratiques différentes et complémentaires. Le service, le satsang et la méditation. Bon, c'est compliqué. L'agya, c'est l'ensemble des préconisations morale qu'il est bon d'observer, vers lequel il est bon de tendre pour avoir une posture intérieure qui favorise la pratique des trois piliers, l'émergence de la réalisation, de la pleine conscience. Le vrai soi, c'est l'âme incarnée, pas celle qu'éventuellement nous étions avant de naître. Pas ce concept d'âme vierge de toute impureté, qu'importe. Celui qui compte est le soi d'aujourd'hui. Ce vrai soi est l'âme incarnée. Cette entité, entre guillemets, faite de la matière divine, ne vous étonnez pas, j'ai mis des guillemets là aussi, et de l'ego. Donc le vrai soi, c'est l'âme incarnée qui est faite en partie de la matière divine et de l'ego. Alors l'ego est ce je qui permet de dire j'aime, je comprends, j'écoute. L'ego n'est pas l'ennemi dont on parle souvent en le confondant avec le faux ego. Alors faux ego, c'est ce que vous appelez vous l'ego, mais qui est en fait... est nommé, par exemple, dans la Bhagavad Gita ou le Bhakti Marga, le faux ego. Bien sûr qu'il y a en chacun quelqu'un d'autre qui dit « je » et veut nous faire croire qu'il s'agit de nous. Mais ce « je » n'est pas le « je » de nous, c'est le « je » du faux ego. C'est le « je » qui est le fruit du conditionnement, de l'éducation. Il forme une espèce d'entité, la personnalité, que certains pensent connaître. Le vrai soi, c'est autre chose. Tant que j'observe de l'extérieur ce moi intérieur, je ne suis pas ce moi intérieur. En entrant en méditation profonde, dhyana, vous entrez dans la conscience d'être. Vous n'observez pas. Bien sûr que les choses viennent quand elles viennent. C'est une question d'ouverture, de conscience. La conscience ne vient pas en étudiant dans les livres. Ce sont les connaissances qui viennent, mais pas la connaissance, pas la conscience. Pour être mouillé, vous devez plonger dans l'eau. Lire peut vous donner envie d'approfondir votre conscience, peut vous donner envie d'aller vous plonger dans l'eau. Mais lire ne remplacera pas le fait de plonger. Tant que vous vous regardez méditer, vous ne méditez pas. Le yoga, c'est comme ça que ça se prononce, hein, yoga, c'est quand le méditant et l'objet de sa méditation se fondent, se confondent, ne font plus qu'un, qu'il n'y a plus de césure entre eux. C'est Satchitananda ou la béatitude. D'où l'importance de bien choisir l'objet de sa méditation. Si vous méditez sur une bougie, vous n'allez pas devenir une bougie. Si vous méditez sur un mandala, vous n'allez pas devenir le mandala. C'est comme la lumière intérieure. Bon, mais je fais ça, c'est pour rappeler aux initiés que c'est ce que fait un des trois singes de la sagesse. Qui parle de ça, justement. Il ne dit pas ne pas voir le singe de la sagesse, il dit voir la lumière intérieure, en retournant son sens de la vision vers l'intérieur. Entendre la musique intérieure, en retournant ses sens vers l'intérieur. Méditer sur le sanon. Le nez, la bouche, le nectar et le sanon. D'où l'importance de bien choisir l'objet de sa méditation. C'est comme la lumière intérieure quand vous méditez et que vous la voyez en face de vos yeux clos. Vous pouvez décider de rester spectateur ou de vous fondre en elle. Même sans vous fondre en elle, de la voir, de la regarder, vous fait profiter de ses bienfaits, la compréhension, le discernement, l'acuité cérébrale et la joie aussi. Viennent deux citations, donc la première, ouvrez les guillemets, « Le but de la pratique est de gommer les causes fondamentales de l'affliction par la contemplation, d'amener à l'unité. » C'est tiré du Yoga Sutra, livre 2, chapitre 2. Verset 2, pardon. Aphorisme, si vous préférez. Aphorisme 2. Ce qui signifie que par l'union intime du méditant et de l'objet de sa méditation, il y a disparition des causes de l'affliction. Ouvrez les guillemets. Méditer sur la lumière intérieure met en présence de la perfection. Fermez les guillemets. Toujours les Yoga Sutras, livre 3, aphorisme 32. Ce qui signifie que la méditation sur la lumière intérieure donne la juste vue ou vision des parfaits, les siddhis. Alors, si vous contrôlez Yoga Sutra, livre 2, aphorisme 2, et Yoga Sutra, livre 3, aphorisme 32, vous ne trouverez sans doute pas l'équivalence de ce que je viens de vous citer. Parce que le Yoga Sutra, qui est écrit en sanskrit à l'origine, eh bien, vous ne trouverez pas deux exemplaires au monde qui soient similaires, à part si c'est deux exemplaires de la même édition, du même auteur et des mêmes traducteurs, parce que le sanskrit est une langue élastique qui peut... Chaque mot de sanskrit peut vouloir dire plusieurs dizaines de choses différentes, en fonction de plein de paramètres, comme l'époque, l'année où ça a été écrit, comme parce que les mots peuvent changer de sens avec le temps. Ça change aussi en fonction de l'école philosophique et mystique qui parle. Hein. Donc la sadhana voudra, le dharma voudra pas dire la même chose en fonction de l'école mystique. Hein. Donc les traductions sont toujours des traductions faites par des traducteurs. Mais les traducteurs ne sont pas des pratiquants mystiques de cette méditation-là. Donc ils traduisent... comment voulez-vous traduire un livre mystique sans connaître la mystique qui est décrite? Si vous connaissez les mots, le vocabulaire et la grammaire sanskrite, c'est très bien. Si vous êtes docteur en sanskrit, c'est très bien. Mais un docteur en sanskrit n'aura pas la compétence, l'autorité morale, l'autorité de savoir suffisante pour traduire le Yoga Sutra. Donc, les aphorismes que je viens de vous citer du Yoga Sutra sont issus d'une traduction que j'ai faite du sanskrit en direct. Là, je suis en train de chercher sur mon ordi en vous parlant l'adresse d'un blog où j'ai édité les quatre livres du Yoga Sutra. C'est quatre livres différents. Vous pouvez gratuitement télécharger le PDF et vous pourrez lire ma traduction des aphorismes de Patanjali. Il y a la traduction en elle-même en français et il y a aussi en dessous, quand c'est nécessaire, des explications que j'ai données. Donc voilà. Alors oui, www.yogasutra sans accent. Pas d'accent circonflexe, pas de majuscule, tout en minuscule, tout attaché. Yoga Sutra tiré de 6 nouveau.blogspot.com. Yoga Sutra tiré nouveau.blogspot.com. Alors blogspot en un seul mot, bien sûr. Alors je reprends la lecture du satsang. C'est comme pour la météo. Quand le temps est humide, sombre, vous éprouvez moins de joie. Et quand les nuages s'en vont, que le soleil brille, vous éprouvez automatiquement plus de joie et de bien-être. Avec la lumière intérieure, c'est la même chose. La lumière intérieure fait sur votre conscience ce que celle du soleil fait sur votre humeur. Alors, la lumière du soleil agit sur une glande, hein, qui permet d'émettre des hormones de bien-être. Hein. La lumière intérieure agit sur le troisième œil, sur la glande pinéale. Hein. Ça vous permet aussi d'avoir des hormones qu'on appelle le nectar et qui donnent la juste vue, la compréhension, etc. C'est pour ça que je vous conseille de commencer vos sessions de méditation formelle par la technique du Saint-Nom. Ensuite, vous pouvez passer à la technique de la musique. Alors là, je parle aux disciples, hein, initiés. Puis à celle de la lumière intérieure. Maintenant, je connais une pratiquante qui fait des pauses lumière dans la journée, quand ça lui prend. Par exemple, elle ne médite que sur la lumière pendant 10 à 15 minutes, en plus de sa méditation normale. C'est pas à la place. Chacun fait comme il le sent et surtout comme il le peut. En cas de doute, eh ben, vous me demandez. Les disciples ont tous mon adresse mail. D'ailleurs, tout le monde a mon adresse mail. Hein. Vous l'aurez aussi. Alors, l'être, pas le paraître. C'est l'être qui compte, pas le paraître. Bon, ça, on est tous d'accord. Vous n'avez pas à prendre une posture. Pas plus que moi, je n'ai à jouer au gourou. Malgré mon écharpe, mon pyjama blanc et mon gilet, hein. En fait, c'est ma tenue de méditation, tout ça, hein, que je porte quand je suis dans la salle de satsang. Ici, c'est la salle de satsang, et une partie, c'est mon bureau, et quand je suis dans la salle de satsang, je suis toujours en tenue blanche, comme ça, hein, ou jaune, enfin, en tenue de yoga, voilà. Quand je suis dans le reste de la maison, que je fais la cuisine, que je mange, que je suis en tenue, j'allais dire, civile. Hein. Quand je sors faire les courses, je suis en tenue civile, en jeans, et etc. Il n'y a pas de tenue spéciale pour pratiquer. Simplement une tenue large, ample, où on peut se mettre en lotus ou en demi-lotus, de façon à être à l'aise pour méditer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à jouer au gourou, à s'habiller en gourou. Personne ne se doit de jouer un rôle. Nous sommes comme nous sommes. Soyez vous-même et assumez au mieux votre dharma. Alors nous, le mot dharma, on lui donne le sens de devoir sacré. Vous ne devez pas faire les choses pour ressembler à un yogi parfait, un siddhi, à un maître spirituel. Être un pratiquant, c'est juste aimer la conscience, aimer être. Et c'est de ne pas s'attacher à sa recherche, à ses idées, à des théories. Après, pourquoi pas, si vous aimez collectionner les images, les mots et les concepts, comme d'autres collectionnent les coquillages, pourquoi pas? il n'y a rien d'interdit. Mais si vous désirez être un pratiquant, n'oubliez pas la pratique, c'est la moindre des choses, que la théorie ne remplace pas la pratique. Vous pouvez aimer les théories, mais pratiquez. Petit à petit, vous comprenez. Des choses que mon maître m'avait dites, quand j'étais en Inde, dans les années 70, et que j'avais gardées comme des petits cailloux, se transforment en diamants avec le temps et ma compréhension. Tout est comme un puzzle qui devient cohérent. Une fois le puzzle de la compréhension terminé, nous voyons vraiment pleinement l'utilité de l'observance. En attendant de l'avoir pleinement, cette utilité, observez les trois piliers et l'agya par conviction, par foi. Une citation, ouvrez les guillemets, « Celui qui observe l'agya se place sous la grâce. S'il en sort, qu'il s'y remette et s'y remette encore. » Fermez les guillemets. C'est tiré du livre de la voie, le Bhakti Marga, ou la voie de la dévotion, livre 1, chapitre 4, verset 36. Alors, dans ce livre, le mot Agya renferme les deux choses. Hein. Ça renferme les trois piliers, qui sont la sadhana de la pratique, et renferme les préconisations morales. C'est un ensemble, l'Agya. C'est un Agya, entre guillemets, suprême. Voilà. Alors, 21 minutes, ce satsang est maintenant terminé. Je dis aux disciples Jai Satchitanand, ça veut dire gloire à la vérité qui est conscience de la béatitude. Aux pas disciples, je vous dis bah, why not, hein, vous pouvez m'écrire. Mon adresse c'est lavoie.eu@gmail.com. lavoie.eu@gmail.com. La voix en minuscule et en un seul mot, avec un E à la fin, lavoie.eu@gmail.com, et au revoir. À la prochaine.